dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 7 février 2025. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Les États-Unis qui ont décidé de suspendre pour un mois la taxe sur les importations mexicaines annoncée samedi par Donald Trump. C'est du moins ce qu'a indiqué lundi la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum après une conversation avec son homologue américain. Il faut dire que le Mexique est le premier partenaire commercial mondial des États-Unis, destination de 83% de ses exportations. Washington a aussi suspendu lundi l'imposition de droits de douane à l'encontre du Canada pour 30 jours. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre canadien Justin Trudeau après un appel avec le président Donald Trump. Le Canada estime que les tarifs douaniers risquent de nuire à la compétitivité de l'Amérique du Nord, d'augmenter les prix pour tous les consommateurs et menacent des millions d'emplois. Pour rappel, le président américain Donald Trump avait annoncé samedi des tarifs douaniers à 25% sur les importations de ses voisins, le Canada et le Mexique, partenaires des États-Unis au sein du traité de libre-échange d'Amérique du Nord. Donald Trump les accuse de laxisme dans la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine vers les États-Unis. Et pour discuter de tout cela, nous avons comme invité ce soir Boris Wenu. Vous êtes économiste et vous êtes en direct de Montréal au Canada. Boris, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Merci pour votre disponibilité. Idriss Linge est avec nous depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Idriss Linge, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Guillaume.
Fleury Kamga est avec nous. Vous êtes un supporter de Donald Trump. Vous vivez dans la région de Washington, D.C. Fleury Kamga, bonsoir. Décidément, nous n'avons pas Fleury, nous l'aurons probablement au cours de cette émission. Je vais commencer par vous, Boris Wenu. Vous êtes donc au Canada, on le disait, l'un des pays visés par ces tarifs douaniers de Donald Trump. La mesure a été mise, on le disait, en pause pour 30 jours. Comment tout cela a-t-il été accueilli au Canada, aussi bien dans les milieux politiques que d'affaires? Est-ce qu'on a Boris? Boris a dû... Boris n'est pas en ligne. On va aller chez Idriss Linge. Parlons des droits de douane. Pour le citoyen lambda, quand on parle de droits de douane, on parle de quoi et pourquoi est-ce que c'est important pour les pays qui les appliquent?
Alors, normalement, la douane avait été constituée à une époque où les économies se faisaient la compétition entre elles. Donc, la douane avait pour mission d'empêcher que des pays venant de l'extérieur viennent être en concurrence avec le secteur productif d'une économie précise. Et aussi de surveiller qu'il n'y a pas de produits illicites, hein, comme la drogue et toutes ces choses qu'on interdit qui entrent dans une économie. Après, avec la mondialisation, la douane est davantage devenue un instrument de surveillance pour s'assurer que les indicateurs n'étaient pas tronqués, qu'on ne pratiquait pas de fraude sur les prix d'importation ou d'exportation, mais aussi qu'on continuait de protéger l'économie intérieure des produits nocifs, des produits illicites. Avec Donald Trump, on découvre que la douane peut devenir un instrument de négociation sur le plan international. Vous ne m'aidez pas à empêcher la drogue d'entrer chez moi, je vous impose les droits de douane. Vous ne m'aidez pas à arrêter les flux des migrants, je vous impose les droits de douane. Donc c'est ce qu'on est en train de voir avec Donald Trump. Il utilise la douane aussi bien pour des questions de protection de l'économie américaine ou alors du secteur productif américain que pour des questions de négociation sur d'autres sujets.
Et à propos de négociations, on parlera justement de la méthode Trump dans un instant. Boris Wenou nous a rejoint. Je disais, vous êtes au Canada, l'un des pays visés par ces tarifs douaniers de Donald Trump. La mesure a été mise en pause pour 30 jours, mais avant cela, comment cette imposition a été accueillie au Canada, aussi bien par les politiques que par les milieux d'affaires?
Oui, merci bien, George. La première chose que je voudrais dire, c'est que ça a été quand même de la panique. Je pense qu'avant que Trump ne devienne, ne prête serment, personne ne croyait qu'il irait, en fait, au-delà du cercle habituel auquel on s'est habitué à le voir agir, notamment en ce qui concerne la Chine, par exemple, sur laquelle il impose des droits de douane. Personne n'a imaginé qu'il ferait la même chose dans l'hémisphère nord. Donc, clairement, avec les difficultés politiques aujourd'hui que le gouvernement canadien avait déjà de façon domestique, ça a été une grande panique lorsque, en fait, le président Trump a décidé effectivement de passer à l'acte. Ça, c'est au niveau politique. Et donc, ils ont essayé à leur façon de rebondir, notamment en assurant leur population qu'ils vont riposter et qu'ils vont continuer par négocier donc à la fois la carotte et puis la chicotte. Mais de l'autre côté, au niveau des industriels et du commerce, vous savez, le rythme auquel, en fait, les politiques peuvent aller, le marché ne va pas forcément à ce rythme-là, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc, lorsqu'on a annoncé des boycotts, par exemple, de produits américains dans les magasins canadiens, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que ça prend du temps pour que ça change. Donc, je n'ai pas encore le sentiment que l'effet mordant, en fait, de cette crise-là a été entièrement intégré, et puis les réajustements que le marché devrait faire, il est arrivé à le faire déjà au niveau du Canada.
En tout cas, ils ont quelques semaines pour s'entendre, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Fleury Kamga, Donald Trump s'est toujours présenté comme un bon négociateur, on en parlait tout à l'heure, et avec des méthodes qui lui sont propres. Qu'est-ce qui fait sa particularité en matière de négociation, justement, dans le cas de ces tarifs douaniers? Un jour, il les impose, et deux jours plus tard, il y a une petite pause.
Mais il faut comprendre que la plus grosse qualité d'un négociateur, c'est ses avantages. Qu'est-ce qu'il a comme avantage? Sur le plan économique, les États-Unis, c'est le pays consommateur. Et la réalité, c'est que la guerre tarifaire États-Unis-Canada ou États-Unis-Mexique ne peut pas tenir sur un mois. Les deux autres pays vont tomber. Ça, c'est suffisamment clair. Mais la réalité, il faut qu'on revienne d'abord pour savoir pourquoi est-ce que Donald Trump l'a fait. Rien ne vaut la santé de ces populations. Il y a un trafic de médicaments dangereux qui partent du Canada ou du Mexique pour arriver aux États-Unis. Ces deux pays sont des amis de l'Amérique. Mais rien ne vaut la santé des populations et il fallait absolument frapper. Je pense que le gouvernement canadien, comme le gouvernement mexicain, a compris que ceci n'était pas de leur intérêt d'entrer dans une guerre tarifaire avec les États-Unis. Ils ont demandé de mettre une pause et le président américain a compris.
Et d'ailleurs, les deux pays, le Canada et le Mexique, ont promis de prendre un certain nombre de mesures et même d'engager des fonds pour satisfaire donc aux demandes de Donald Trump. Idriss Linge, Washington estime tout de même que la mise en place de droits de douane universels pourrait renforcer la base manufacturière des États-Unis, alors que la question que je vous pose, si les pays appliquent des taxes douanières de façon réciproque, il y a des taux allant de 10 à 25%. Quelles peuvent en être les conséquences pour chaque pays?
Non, je pense que sur ce point, mon collègue Fleury semble lire la réalité de manière un peu parcellaire. Les États-Unis ferment les yeux sur des partenaires économiques qui représentent 35% des exportations américaines. Donc, effectivement, la question est tout à fait pertinente. Si le problème, c'est que aussi bien les États-Unis, le Canada que le Mexique, ce ne sont pas des économies du tiers-monde. C'est des économies qui ont une compétence avérée, qui ont un système productif extrêmement performant et qui sont capables, sur plusieurs lignes de consommation, de pouvoir déjà produire pour eux-mêmes. Et ils sont parvenus aussi à produire pour pouvoir vendre aux États-Unis. De nombreuses villes américaines proches du Mexique ou encore du Canada ne vivent que parce qu'ils bénéficient de la force de production du Canada. Bon, j'ai suivi Donald Trump dire que ben, on s'en fout, les Américains, on est puissants, on est tout ce qu'on veut. Mais la vraie question est-ce que les Américains peuvent aujourd'hui s'engager dans un nouveau cycle de réindustrialisation, alors même que le pays fait face à un niveau de prix qui est suffisamment élevé et que la Banque centrale n'a pas encore baissé ses taux directeurs? Est-ce qu'on est prêt à construire juste parce que Donald Trump a dit qu'il y a de l'opportunité désormais, il y a des produits canadiens qui n'entreront plus chez nous, ou des produits mexicains, et désormais vous pouvez produire aux États-Unis et puis pouvoir conquérir ces marchés, là, ces parts de marché? Ça va durer combien d'années? Est-ce que ça durera 4 ans? Est-ce que ça durera 8 ans? Est-ce qu'on peut financer une industrie en ne planifiant que ces 8 ans? Je pense que toutes ces questions qu'il va falloir que les entrepreneurs américains puissent répondre. Et puis, il faut savoir que des pays comme le Mexique, parce qu'ils ont des coûts de production beaucoup plus faibles encore que le Canada ou même que les États-Unis, sont capables d'être compétitifs, même si les niveaux de douane sont élevés. Et enfin, il y a la réelle politique. Lorsqu'il était candidat, il disait « Je vais mettre 60% sur la Chine. » Mais très rapidement, on a dû lui rappeler ce que ça peut coûter si la Chine commence elle-même à imposer des douanes sur des produits américains. Et même si on impose des droits sur des produits fabriqués en Chine, mais qui majoritairement sont le fait prises américaines qui ont délocalisé pour bénéficier des coûts de production beaucoup plus faibles. Et ils ne trouveront pas les mêmes coûts de production faibles et la même compétence aux États-Unis.
Alors, justement, vous parlez de la Chine. Il y a des entreprises chinoises qui ont délocalisé et se sont implantées au Mexique lorsque cette menace de 60% de taxes avait été évoquée par Donald Trump. Boris Ueno, est-ce que quand Donald Trump dit l'Amérique d'abord, est-ce que justement, il n'est pas certain que les Américains peuvent produire, comme Idriss le disait tout à l'heure? Est-ce que ce n'est pas une autre manière de négocier pour son peuple?
Oui, je voudrais déjà rappeler que l'argument fondamental, la raison pour laquelle on voudrait bien que les États commercent entre eux, c'est l'argument de l'avantage comparatif. C'est-à-dire qu'il coûte moins cher chez vous de produire la même chose que moi je veux, que de le produire chez moi. Et donc, lorsqu'on échange, chacun de son côté, nous gagnons. Cet argument, c'est un argument que, apparemment, en tout cas, l'administration américaine, et notamment celle de Trump, est en train de challenger. Et donc, à mon avis, c'est qu'on est en train de rentrer dans une phase d'expérimentation où on va vraiment à l'encontre de l'argument de l'avantage comparatif et on va vers la politique industrielle. Donc, vous avez dit tout à l'heure que Trump espère rebâtir, en fait, la base manufacturière des États-Unis. Et la plupart des analystes sont unanimes que ça ne sera pas possible. Alors Trump lui bande sur le fait que ça va être possible et attendons de voir jusqu'où il pourra vraiment aller. Donc lorsqu'on impose les tarifs, on fait tout ce qu'il fait, la finalité vraiment c'est de ramener aux États-Unis la base manufacturière. Je voudrais rappeler que globalement, les États-Unis vis-à-vis du monde ont un déficit commercial assez important, autour de 900 milliards. De dollars américains.
Tout à fait.
Mais lorsqu'on regarde dans les détails, c'est-à-dire on met de côté les produits et on regarde les services, en fait au niveau des services, les États-Unis ont un surplus. Seulement que le surplus n'est pas suffisamment grand pour compenser et dominer en fait le déficit au niveau des produits. Donc clairement, lorsque vous êtes dans les services, vous êtes dans la banque, les États-Unis en fait ont un surplus par rapport au reste du monde. Et ce qu'ils voudraient faire, c'est de changer un peu cette donne qu'au-delà du surplus au niveau de la finance, au niveau des banques, au niveau des services en général, qu'on puisse avoir une base manufacturière aux États-Unis. Et n'oubliez pas, ça rentre également dans l'une des promesses politiques qu'il a faites à sa base, que lorsque les industries manufacturières vont revenir aux États-Unis, les gens pourront avoir du boulot. Moi, je me dis, on rentre dans une phase d'expérimentation et attendons de voir, même si nous avons des certitudes par rapport à nos théories et par rapport à ce que donne ce que nous indique l'histoire, il va falloir observer et voir jusqu'où il pourra tirer ça.
D'autant plus que Donald Trump est celui-là qui tente toujours des choses dont on dit parfois qu'elles sont impossibles et qui finissent par se réaliser. Fleury et Kamga, Donald Trump a lui-même aussi reconnu que les Américains pourraient temporairement souffrir des droits de douane, mais il estime que cela en vaudra la peine. Quels pourraient être les effets concrets sur les consommateurs ici aux États-Unis et les entreprises américaines, et que doit faire le président américain pour alléger ces effets au cas où ces mesures de taxes douanières venaient à prendre effet?
Mais je dois déjà dire que j'apprécie ce que Boris vient de dire, c'est exactement l'objectif de Donald Trump. Et connaissant l'homme, il attaque toujours plus haut pour avoir ce qu'il demande. Mais la réalité, il a dit, le peuple américain va souffrir pour un petit instant. Parce que si vous avez entendu, suivi les médias pendant la petite période qui a bousculé le Canada, il y a déjà des entreprises alimentaires au Canada qui pensaient déjà à se reloquer aux États-Unis. Il y a même des entreprises de fabrication de voitures qui voulaient déjà se reloquer aux États-Unis. Donc c'est important de comprendre que Donald Trump est en train de pousser les autres pays en utilisant les forces des États-Unis pour leur dire, si vous ne voulez pas le faire, nous le ferons sur place ici. Mais en attendant, ça va être un peu dur pour les populations, mais après, quand ça va débarrer très fort.
Idriss Linge, on ne parle pas que du Mexique et du Canada, il y a aussi la Chine, les États-Unis ont brandi la menace d'appliquer des droits de douane, je crois, des 10% à l'écart de la Chine. On observe tout de même qu'en 2023, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s'est réduit de 27%, passant de 381 milliards de dollars en 2022 à 279 milliards de dollars. Les États-Unis tentent de diversifier de plus en plus leurs sources d'importation et réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'il y a un risque que ces deux grandes puissances économiques mondiales arrivent à une guerre commerciale ouverte, à votre avis?
Bon, je pense que de toutes les façons, beaucoup de jeunes générations, je pense, découvrent la place de la Chine comme étant un pilier du commerce mondial. Il faut se rappeler que dans les années 1700-1800, la Chine était déjà le leader du commerce mondial. Et d'ailleurs, un très riche Américain a fait fortune parce qu'il avait trouvé Forbes, un certain Forbes a fait fortune parce qu'il avait trouvé le moyen d'aller commercer avec les Chinois. Les Chinois ont la capacité d'avoir la profondeur dans leur stratégie, alors que les Américains sont guidés par une philosophie de l'économie qui est régie par les 10 principes de Mankiev, à savoir les arbitrages, réfléchir toujours en termes de marge. Donc la Chine, elle n'a pas de problème à se positionner comme étant un grand acteur économique. Et aujourd'hui, elle montre qu'elle a la capacité d'avoir un secteur productif extrêmement important. D'ailleurs, lorsque Trump devait arriver au pouvoir et qu'on se rendait compte qu'il y avait un risque qu'on mette ses tarifs, les importations en provenance de la Chine, notamment vers l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis, ont augmenté parce que les gens, ils voulaient acquérir rapidement les produits chinois. Parce que les Chinois, aujourd'hui, ils sont capables de fournir partout dans le monde ce que le monde veut. Maintenant, est-ce qu'il y a commercial? Forcément, ça a toujours été le cas. Les guerres commerciales sont des réalités de l'histoire humaine. À un moment donné, c'était la Grande-Bretagne qui avait combattu les Chinois, il faut se le rappeler. Avec la guerre de l'opium, qui avait été très très mauvaise pour les Chinois. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui font la guerre contre les Chinois. Et puis, il faut se rappeler quand même que les Chinois sont en train de se construire un univers qui est celui des BRICS, qui aujourd'hui est en train de grandir en importance. Ils abritent un des plus grands marchés du monde, si on compte la population indienne, chinoise, africaine, russe, Arabie Saoudite et tout le reste. Ben, il faut tenir compte de tout cela. Je pense que le monde, le commerce mondial tel qu'on l'a connu est en train de shifter. Trump, certainement, il a des qualités qui sont très appréciées par ses populations. Mais il commet l'erreur de penser que le monde va continuer d'observer les États-Unis parce que les gens ont suffisamment observé les États-Unis et aujourd'hui, beaucoup sont en train de trouver des alternatives. Et c'est là que ça va vraiment être déterminant.
Alors, Boris, si l'environnement économique est celui qu'on connaît aujourd'hui, où chaque pays peut décider de l'avenir de ses populations, à quoi sert désormais l'Organisation mondiale du commerce?
Non, excellente question. Je pense que c'est une organisation qui avait été sérieusement souhaitée lors de Trump 1 et qui cette fois-ci, même s'il ne l'attaque pas directement à travers ses agissements, on pourrait se dire que cette organisation aura du mal à vraiment s'imposer. Et il faut remarquer globalement, hein, comme moi, j'ai l'habitude de le dire, le système des Nations Unies, le système qui organise l'ordre mondial, c'est un système qui n'a pas de moyens de punition. Ils n'ont pas de moyens punitifs. Et donc, ces moyens punitifs, pour la plupart du temps, reposent sur la bienséance. C'est-à-dire que les États puissent accepter, admettre qu'ils vont respecter les lois. Et puis, lorsque ça ne va pas, que chacun maintenant sorte ses muscles. Et dans ce cas précis, je pense que les États-Unis sont en de très bonnes positions pour le faire. Il y avait une question que vous aviez posée et qui recoupe un peu l'aspect OMC. C'est que lorsque les États-Unis décident essentiellement d'imposer ces tarifs-là, ils essaient de faire des choses au niveau de leur pays pour amoindrir en fait l'effet inflationniste potentiel que ces tarifs pourraient avoir. Et la question que moi je pose très souvent aux autres pays, c'est qu'est-ce que vous faites ? Parce que très souvent, il va arriver effectivement que les populations puissent ressentir le renchérissement des prix, mais il faut trouver d'autres leviers par lesquels vous pouvez en fait amoindrir en fait le coût que ces populations prennent. Et ça peut passer du côté des États-Unis, par exemple, par la forte politique de décaptation qu'il est en train d'imaginer, la dérégulation en fait de l'économie qui permet d'enlever tout ce qui peut être des entraves à la création de l'emploi, des entreprises, de l'innovation. Ces pays qui sont affectés par ces tarifs devaient considérer également ces moyens qui contrebalancent en fait l'effet en fait des tarifs douaniers.
Fleury Kamga, vous l'avez évoqué au début, si Donald Trump fait tout cela, c'est pour régler lui un problème national parmi tant d'autres, notamment la lutte contre l'immigration clandestine et la lutte contre le fentanyl notamment. Vous pensez qu'il aura gain de cause, qu'il va s'en sortir?
Je pense qu'il va s'en sortir. Parce que dans cette guerre tarifaire, il va absolument gagner. Et parlant tout à l'heure des organisations internationales, je peux vous dire que Donald Trump ne regarde pas ces organisations avec un très bon œil. Il pense que ce sont des organisations dangereuses pour les États-Unis parce que dans la majorité des cas, elles sont financées à 70-80% par les États-Unis et c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Mais pour revenir à votre question, les États-Unis sortiront gagnants de ce combat. Parce que quand Trump s'engage sur une lutte, c'est qu'il sait exactement la voie de sortie.
On va dire un petit mot sur l'Afrique. Idriss Linge, vous êtes, on l'a dit en début d'émission, rédacteur en chef de l'agence ECOFIN. Autant dire que vous connaissez bien le continent. Que pèse l'Afrique aujourd'hui sur la scène internationale économiquement parlant et quelles pourraient être les implications de cette guerre des tarifs entre les grandes puissances sur les pays africains?
Bon, déjà, c'est très difficile de parler de la place de l'Afrique économiquement parlant. Lorsqu'on parle du commerce, on estime que l'Afrique ne fait que 3% du commerce mondial, mais c'est à tort, parce qu'en réalité, le continent, lui, qui produit le plus de matières premières, qui sont essentielles à la chaîne de valeur globale, des valeurs ajoutées qui se créent. Très souvent, on ne comptabilise pas ce que... minières, par exemple la transition énergétique, rien que la RDC, c'est l'équivalent de 24 000 milliards de dollars de réserves de matériaux essentiels à la transition énergétique. Le barrage des Inga, c'est encore autant de milliers de milliards d'énergie renouvelable, et je ne parle pas de toutes les autres zones de l'Afrique. Mais bon, après cette bagarre qui est en train de s'installer du fait de l'arrivée de Trump, n'est pas une mauvaise chose pour l'Afrique. La vérité, c'est que si le marché américain n'est plus ouvert parce que les Américains mettent beaucoup trop de barrières douanières, bah, ça pourrait se transformer en une opportunité pour les économies africaines. D'accord. C'est un marché de 1 milliard d'habitants. Et puis les pays qui ne peuvent pas vendre aux États-Unis viendront vendre en Afrique. Et qui sait, si les Africains tirent bien avantage de cela, ils pourraient connaître une accélération de leur croissance parce qu'ils accéderont à la technologie de pointe.
D'accord. Boris, quelques secondes, un mot sur l'Afrique.
L'Afrique a une chance à jouer dans cette guerre. C'est une chance de repositionnement, notamment en regardant sur elle-même, donc pour le commerce intra-africain, mais aussi voilà. En s'ouvrant au reste du monde. Je pense qu'il y a une opportunité à saisir ici.
Voilà. Fleury Kamga, un petit mot sur l'Afrique.
Ouais, je peux vous assurer que l'Afrique a la plus grande opportunité de son histoire. Il est temps pour l'Afrique de ne plus jouer à l'enfant qui attend le biberon, mais de prendre son destin en main. Et ça, c'est le moment.
Et c'est ce qu'on verra. C'est la fin de cette édition de L'Avérique-vous, présentée par John Lyndon. Production Georges Léonard Sagno. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités aussi. Bonsoir, vous êtes sur VOA Afrique. Nos émissions se poursuivent.